Bien, bonsoir à tous. Allez, on est parti pour une petite dernière. Donc, aujourd'hui, on continue sur l'Irlande et on enchaîne donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on était resté sur la guerre civile avec une Irlande du Sud qui se construit petit à petit dans les années 30 et qui développe en fait son propre gouvernement et ses institutions. Donc, on avait dit qu'en fait, pour vous remettre un petit peu dans le bain, Michael Collins avait signé le traité, vous vous souvenez, qui avait coupé l'Irlande en deux parties. Et du coup, suite à ce traité, l'Irlande obtient une certaine indépendance, qui est toute relative, parce qu'elle n'est pas encore indépendante totalement. Mais donc, ça permet au pays de l'Irlande de développer son propre gouvernement et ses propres institutions. Donc, dans les années 30, Eamon de Valera est à la tête de l'État libre d'Irlande du Sud. Mais alors, donc on a toujours les relations entre Dublin et Londres qui restent très tendues. Et en fait, les deux pays se surveillent. Donc par rapport à cette Irlande du Nord, où vous avez donc une incursion du Royaume de Grande-Bretagne en Irlande qui permet de surveiller en même temps le sud de l'Irlande depuis l'Irlande du Nord, donc depuis Belfast. Et inversement, vous avez aussi Dublin qui surveille Londres par le biais d'une surveillance de l'Irlande du Nord et de Belfast. Donc on rentre dans un jeu d'espionnage sur le sol même irlandais. Donc voilà. Ensuite, les années 30, donc vous avez un certain nombre de groupes fascistes en Irlande, comme des groupes extrémistes, comme les fascistes ou les communistes, qui commencent à augmenter en puissance au niveau politique et qui aussi permettent qui amplifient un petit peu le phénomène de peur de Londres. Londres a peur en fait que l'Irlande se fasse manger entre guillemets par les communistes et donc a besoin aussi de surveiller ce pays. Donc De Valera, qui est à la tête du gouvernement, parvient à diminuer la puissance de ces communistes, de ces fascistes, de l'organisation terroriste aussi, puisqu'on parle toujours de l'IRA même en Irlande du Sud, et il développe son pouvoir politique. Et il arrive même à changer la constitution irlandaise pour plus d'autonomie. Dans les années 37-38, il va négocier un accord avec la Grande-Bretagne qui va donc transformer le nom de l'Irlande en État libre d'Irlande et l'Irlande va devenir l'air, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur un statut de république totale, mais sur une nouvelle constitution irlandaise qui prend petit à petit de plus en plus d'indépendance par rapport au gouvernement irlandais. Alors cette séance d'aujourd'hui se propose d'étudier alors la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30. Je vous ai fait une petite version rapide, mais sinon ça serait trop long. Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Simplement, tout d'abord parce que nous fêtons les 70 ans du débarquement sur les plages de Normandie. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les risques représentés par l'Irlande, les aides qu'elle apporte aux Alliés malgré sa neutralité, semble intéressante à creuser, et aussi la relation anglo-irlandaise sur cette période, notamment à travers le Dublin Link que vous avez ici, dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis on essaiera d'amener aussi une étude de l'Irlande d'après-guerre, avant de vous concentrer sur les troubles des années 1970 dans la région de l'Ulster et vers Belfast. Et puis, on finira, on va essayer de faire vite, mais on finira par la transformation, dont on avait parlé un petit peu au premier cours, la transformation de l'Irlande en tigre sceptique dans les années 1990-2000. Voilà, pour boucler sur la visite de la reine Elisabeth II le 18 mai 2011. Alors, on disait tout à l'heure le statut spécifique de l'Irlande, donc juste pour vous rappeler au niveau des dates, 1801-1922, l'Irlande est partie intégrante du Royaume-Uni, c'est comme une colonie, elle n'a pas le choix, elle subit, elle a signé son acte d'union en 1801, et à la suite de la signature du traité, donc ce qu'on disait tout à l'heure, on a la création de l'Ulster et l'Irlande devient l'État libre d'Irlande, pour ensuite, en 1937, comme je disais tout à l'heure aussi, devenir un État souverain indépendant, sous le nom de l'air. Et en fait, ces accords donc, du 25 avril 1938 permettent, donc, dans lesquels Londres s'engage à garantir la sécurité de l'État libre d'Irlande, ça c'est la première chose. Le traité de 1938, donc la création de l'air, va permettre aussi à l'Irlande de récupérer certains ports, donc il y en a trois, Berehaven, Lochswilly et Queenstown, qui ont été conservés par la Grande-Bretagne depuis 1922. Et en acceptant ceci, en rendant les ports, en fait, les Britanniques attendent quelque chose en retour, forcément. Donc ils attendent simplement une coopération active de Dublin pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le conflit est déjà en train de se créer. Donc c'est un peu la condition sine qua non à la signature du contrat. Sauf que ça ne va pas se passer comme ils le pensent, bien sûr. Donc arrive le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Premièrement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Irlande a une position stratégique, étant donné qu'elle se retrouve au cœur du conflit. On est dans l'Atlantique Nord, voilà, il y a les Américains, il y a les sous-marins allemands qui arrivent et qui veulent encercler en fait le Royaume-Uni. Donc finalement, l'Irlande représente pour les Allemands un lieu idéal pour l'espionnage, pour le sabotage. Les eaux et les côtes irlandaises s'étendent sur toutes les routes commerciales, maritimes et vitales aussi pour la Grande-Bretagne, donc elles posent vraiment un problème. Et puis, si les Allemands parvenaient à infiltrer l'Irlande, ils parviendraient aussi à déclencher des révoltes facilement en se basant sur l'IRA et à pousser en fait à l'agitation politique en Irlande, qui créerait aussi par rapport à Londres des problèmes de maintien de la paix et de l'ordre. Donc finalement, les Allemands en Irlande pourraient frapper à la fois militairement ou socialement, et ils pourraient aussi en même temps toucher économiquement par rapport au commerce entre l'Irlande et le Royaume-Uni, et aussi les routes commerciales globales, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. C'est pourquoi Londres doit surveiller Dublin et vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau des infiltrations d'agents allemands. D'autant plus que en septembre 1939, Di Valera, qui est à la tête du pays, déclare l'air neutre. Alors ça a été la catastrophe pour Londres. Selon la convention de La Haye de 1907, un pays neutre impose que ce pays donc ne peut assister aucun belligérant, donc qu'il soit ami, ennemi, c'est pareil au même, et ne peut pas non plus lui offrir son espace aérien, ce qui va poser de gros soucis au niveau de la Royal Air Force, notamment par rapport à la gestion du conflit. Donc en fait, l'air représente de multiples problèmes, et aussi celui de la capture, parce que les Anglais vont même jusqu'à imaginer qu'en fait l'Allemagne capturerait l'Irlande complètement. Alors en plus, au début de la guerre, vous savez qu'en France, même en Norvège aussi, les parachutistes allemands sont très célèbres pour la prise très rapide de la Norvège, puisqu'ils arrivent par en haut. Et en fait, les Anglais imaginent le même scénario pour l'Irlande, où les Allemands parachuteraient en fait des soldats en Irlande, prendraient rapidement l'Irlande, et transformeraient l'Irlande comme une base militaire complète, qui attaquerait les villes britanniques et qui enverrait des missiles. Alors bon, on est peut-être un peu dans la paranoïa, mais c'est possible. Donc finalement, Londres est partagée, puisqu'elle est partagée entre la volonté de coopérer avec l'Irlande, parce qu'elle se dit que finalement, si on coopère, on a quand même de meilleurs résultats, on peut obtenir certaines choses de la population, du gouvernement. Pour faire quoi? Pour lutter contre les infiltrations et les invasions allemandes, ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est d'agir par la force, c'est-à-dire qu'elle hésite entre la coopération et l'opération de force contre l'air, pour récupérer l'air comme une ancienne colonie en fait. Donc elle est vraiment, au début de la guerre, vraiment partagée par ça, d'autant plus que l'Irlande refuse vraiment catégoriquement de lui ouvrir ses ports, donc aucun accès au niveau des ports maritimes, et que toutes les informations que l'Irlande obtient, elle les garde pour elle, donc elle refuse de les diffuser à Londres. Donc c'est vraiment, on arrive vraiment dans une situation sans issue. Et en plus de ça, donc Churchill, qui n'est pas trop, très célèbre pour être soft dans ses décisions, décide de poser un blocus économique sur l'Irlande. Donc il interdit tout simplement les livraisons de produits périssables vers le Royaume-Uni et met fin aux bateaux affrétés dans les deux sens, aussi bien Irlande que Grande-Bretagne, Irlande. Ce qui fait que l'Irlande n'a pas vraiment envie non plus de négocier avec Londres. Alors, la focalisation de Churchill sur la possession des ports, parce que c'est vraiment ça, on n'a pas le temps de détailler tout, mais peut tout simplement s'expliquer par des chiffres ou des nombres. Par exemple, pour donner une idée, de juillet 40 à janvier 41, on a 543 bateaux anglais coulés dans l'Atlantique en à peu près 6 mois. Ce qui fait que, étant donné le nombre de bateaux coulés, ça pourrait être bien si les bateaux pouvaient rentrer dans les ports irlandais, etc. Autre problème en Irlande, l'IRA, on en parlait tout à l'heure. Donc dans les années 38-39, l'IRA, qui sent un petit peu le vent venir, se dit « Et si on s'alliait un petit peu avec l'Allemagne nazie ?» Quitte à faire. Donc, on a un envoi de membres de l'IRA qui vont en Allemagne, qui vont à Berlin et qui négocient avec Berlin des sommes d'argent, etc., pour des armes, pour lancer des opérations terroristes. Et il y a même une rumeur qui circule en Irlande qui pousse à penser que l'IRA, qui serait forte de tout ça, de l'argent et des armes allemandes, aurait même l'intention d'envahir les six comtés du Nord pour les récupérer l'Ulster et rendre l'Irlande totalement indépendante. Alors, en complément de ça, vous avez plusieurs agents secrets allemands qui sont déposés en Irlande. Il y en a un, par exemple, qui arrive la nuit du 12 au 13 juin 1940 par des sous-marins allemands, par l'U-38, qui dépose donc Walter Simon sur la côte du Kerry. Le rôle de cet agent, le rôle de cet espion, une fois en Irlande, ça sera d'observer les vaisseaux qui escortent les convois sur le Loch Foyle, et de communiquer les bulletins météorologiques à l'Allemagne. Ça, c'est le premier qui arrive. Alors, on en a un certain nombre, je ne vais pas tous vous les dire, mais il y en a un qui est important, c'est Wilhelm Pritz, excusez-moi pour la prononciation allemande, qui arrive la nuit du 25 au 26 juin 1940, près de Dingle, et lui, il débarque avec un radiotransmetteur. De l'argent, bien sûr, mais le radiotransmetteur qui va permettre justement aux agents allemands d'envoyer des informations sur l'Irlande, mais aussi sur le Royaume-Uni et sur les Alliés en Allemagne. Donc le souci devient vraiment préoccupant. Et du coup, pour éviter cette invasion de sous-marins, en juillet 40, Churchill décide d'installer un champ de mines qui part du Pays de Galles, donc tout le long en fait, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, jusque dans les eaux territoriales de l'Irlande. Donc, il l'installe, il dit rien aux Irlandais, bien sûr, les Irlandais le découvrent une fois qu'il est installé, ce qui fait qu'ils sont forcés d'accepter. Et du coup, Churchill joue un petit peu avec la neutralité irlandaise, parce que logiquement, il n'a pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales irlandaises, donc il n'a pas le droit de poser ces mines. Ce qui fait, encore une fois, augmenter les tensions anglo-britanniques, irlando-britanniques, pardon. Et du coup, le MI5 se dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour désamorcer la crise, parce que vous voyez qu'on est qu'au début de la guerre et tout augmente au niveau des tensions. Donc, un des membres du MI5 suggère à Dublin, c'est John Maffey, d'envoyer un officier de liaison de l'amirauté britannique à Dublin pour essayer en fait d'aider Dublin à développer un système, mais surtout le système de surveillance des gardes-côtes en Irlande. Alors, j'ai fait une petite carte, je suis désolée, elle n'est peut-être pas très claire. C'est moi qui l'ai faite, donc c'est pas. Donc, le système des gardes-côtes, qui est lancé donc, le 1er septembre 1939. Donc là, tous les petits ronds en fait, correspondent à ce qu'on va appeler une LOP, c'est-à-dire un Lookout Post. C'est une espèce de petite hutte dans laquelle sont installés, alors je vais vous l'expliquer tout de suite, deux gardes, des gardes-côtes, pour surveiller donc, tout le tour. Alors vous voyez que ça représente vraiment tout le tour de l'Irlande. Enfin, il y en a un petit peu moins là, puisqu'on est face à l'Angleterre. Et par contre, dans le sud et surtout dans l'ouest, là et dans le nord, vous voyez bien qu'on se met du côté où il y a le conflit. Donc le conflit étant dans l'Atlantique Nord, on est en plein dedans. Donc, au total, on installe 82 postes de surveillance tout autour de l'Irlande. Donc généralement, les gardes-côtes sont issus d'une force de réserve de l'armée irlandaise. Ce sont souvent des gens qui habitent près des côtes, des marins volontaires. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent simplement scruter l'océan. Donc ils n'ont pas vraiment de moyens, notamment au début, à leur disposition. Ils regardent l'océan pour essayer donc de détecter soit des incursions de navires, soit des incursions plus difficiles de sous-marins, et aussi surveillent le ciel, d'après ces petites cabanes. Juste pour vous donner une idée, quand je vous dis qu'ils n'ont pas de matériel, au départ, ils ont avec eux une paire de jumelles et un télescope. Donc vous imaginez, ceux qui sont face à l'océan Atlantique, c'est un petit peu difficile de repérer les sous-marins, qui prennent souvent d'ailleurs pour des baleines. Alors ils ont beaucoup de mal au départ à faire la différence entre les sous-marins, les baleines, les gros animaux marins, etc. Donc parfois, les signalements qu'ils donnent sont un petit peu limites, surtout au départ. Je vous disais, l'information qu'ils envoient, une fois qu'ils ont récupéré l'information, ils ont des petits carnets, donc ils notent l'information dans le petit carnet, et ils doivent aller rendre compte de cette information au quartier général. Le quartier général, il est à Dublin, on est en Irlande, donc il n'y a pas beaucoup ni moyens de communication, donc via ligne téléphonique ou via même voie ferroviaire ou voie routière. Ce qui fait que l'information qu'ils donnent toujours au début de la guerre, En fait, lorsque l'information arrive au quartier général, elle n'a plus de valeur puisque le bateau est parti déjà depuis un bon moment. Donc c'est un petit peu raté sur le lancement. Par contre, ce qui ressort quand même de ce service de garde-côte, c'est une évolution très rapide et une très nette amélioration des résultats. Donc ils sont quand même, malgré tout, ils ont un entraînement de base. Alors ils sont entraînés en soins de premier secours au cas où des mines explosent et qu'ils retrouvent des cadavres sur la côte. En signalisation, pratique maritime, identification des types de bateaux, de sous-marins, d'avions, hydrographie et météorologie. Donc ils ont quand même un certain entraînement, même si c'est difficile. Et excusez-moi parce que j'ai zappé. Ah oui, donc c'est l'été 40. En été 40, les postes de surveillance sont équipés de téléphones. Et à partir de là, ça va changer tout le système. Puisque dès qu'ils repèrent quelque chose, ils peuvent téléphoner et on réduit la longueur de transmission d'informations à 15 minutes. Alors certes, on est qu'en la deuxième guerre mondiale, les avions ne sont pas non plus hyper performants, surtout au début. Donc en 15 minutes, ça reste correct. Ce qui fait que l'Irlande va pouvoir se baser sur ce système de garde-côte assez efficace pour échanger les informations qu'elle obtient sur la guerre avec Londres. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, comme l'Irlande va être mise à part un petit peu des alliés, puisque les alliés vont décider anglo, les Anglais, les Américains, les Canadiens entre eux, l'Irlande va pouvoir suivre un petit peu le déroulement du conflit parce qu'elle voit de ce qui se passe dans les mers, en fait. Alors, si je reviens sur les avions, parce que je vous disais, il y a les mers, ils surveillent la mer, mais ils surveillent aussi le ciel. Et donc, en début de la guerre, dans les années 40, le seul avion britannique qui est capable de rivaliser avec... Alors, les avions allemands sont beaucoup plus performants que les avions britanniques. Donc, les FW-200, par exemple, qui sont les Allemands, sont plus rapides. Et le seul qui peut rivaliser, c'est le Bristol Blenheim. C'est un avion de la Royal Air Force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, il y a un autre avion très performant allemand, c'est les Condors allemands. Et les Anglais, en fait, sont pas assez rapides pour intercepter ces Allemands. Donc, à chaque fois, ils perdent, tout simplement par manque de rapidité. Et les Irlandais vont venir en aide à ces pilotes de Royal Air Force en signalant l'arrivée, la provenance des avions, en prévenant Londres en disant « Attention, il y a des avions qui arrivent à tel endroit. » Et en fait, Londres va pouvoir, avec des avions moins rapides, monter des opérations d'interception d'avions en sachant à l'avance la direction de l'avion. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est bon. Donc ça va marcher énormément, notamment pendant l'année 40, avec un nouveau petit bombardier britannique qui va gagner un petit peu en rapidité, et ce qui fait que les gardes-côtes vont être très demandés par la Royal Air Force, les gardes-côtes irlandais. Alors, comment on transmet? Parce que bon, le téléphone, ça marchait en Irlande, mais téléphone Londres, Dublin, à l'époque, ça n'existait pas encore. Donc les Irlandais vont envoyer ces messages à Londres par le biais d'une radio. Donc ils vont les diffuser en clair pour faire, alors sous certains codes, pour une interception plus facile et plus rapide, ce qui fait que les avions britanniques décollent dans les temps et qu'ils peuvent intercepter les avions allemands. Alors l'Irlande du Nord, que vous voyez ici, est donc britannique. L'Irlande du Nord va jouer aussi un rôle très important dans la Seconde Guerre mondiale pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme elle appartient aux Britanniques, les Britanniques entre l'hiver 40 et le début des années 41 vont construire place du Lough Foyle à Derry, des ports dans lesquels ils vont pouvoir mettre des bateaux. Ils vont aussi construire en Irlande du Nord, à Castle Ardale, une base d'hydravions qui va leur permettre d'aller sauver l'équipage, leur équipage en mer. Donc quand les navires sont coulés ou torpillés, etc. Depuis l'Irlande du Nord, avec les hydravions, ils vont décoller et ils vont aller récupérer les membres d'équipage qui restent dans l'eau. Alors on a aussi, et vous le voyez toujours sur cette carte, quelque chose qui va être décidé par l'air, qui va enfreindre du coup sa neutralité au profit des alliés. Alors là vous voyez une espèce de petit couloir qui va s'appeler le Donegal Corridor. Donc le problème du couloir de Donegal, c'est qu'il traverse l'Irlande. Donc comme on disait tout à l'heure, l'Irlande est neutre, donc normalement les avions n'ont pas le droit de survoler le territoire neutre. Or, pour aller se poser en Irlande du Nord, ils sont obligés de passer par ce couloir. Donc Dublin accepte d'ouvrir le Donegal Corridor aux avions américains et aux avions britanniques, ce qui va permettre notamment aux convois en provenance des États-Unis de se poser en Ulster. Voilà. L'Irlande du Nord elle a aussi un rôle clé dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque les troupes américaines vont s'en servir pour... depuis l'année 41, ils vont amener le plus possible de destroyers, de navires et aussi de soldats et d'avions. Donc le rôle ici est très important. Vous m'entendez ou c'est bon? Ouais, c'est bon. Le petit problème qui va se poser ici, c'est que au départ, quand l'Irlande va proposer ce couloir, elle n'imagine pas l'augmentation colossale du nombre d'avions. Ce qui fait quand on augmente, vu la taille du couloir, quand on augmente le nombre d'avions, on a forcément beaucoup de problèmes au niveau d'atterrissage et de décollage d'avions qui s'écrasent, qui ne peuvent pas aller jusqu'en Grande-Bretagne, qui n'arrivent pas en Ulster, donc qui se posent comme ça en Irlande. Alors la question c'est que faire des appareils et aussi des membres d'équipage, puisqu'ils ne sont pas censés être là. Donc si Dublin suit sa politique de neutralité, elle doit prendre ses membres d'équipage, qu'ils soient allemands, américains, britanniques, n'importe lesquels, et les mettre en prison. Donc c'est ce qu'elle va faire, puisqu'elle est obligée de sauver la face par rapport à l'Allemagne. Sauf que secrètement, bien sûr, elle va aider les alliés, donc va s'arranger pour faire redécoller les avions américains. Par exemple, il y a certains avions dont elle va réapprovisionner en fuel, par exemple, le 27 septembre 1941, il y a le Hudson AE-577 qui devait se poser en Écosse et qui ne peut pas. Donc il se pose en catastrophe en Irlande et il repart. Et tout ça, il faut le cacher aux Allemands. Donc ça veut dire aussi que le MI5 va développer une section spéciale qui s'appelle le MI9 qui va être spécialisée dans l'évasion des pilotes anglais qui sont arrêtés sur le sol irlandais. Donc ils vont mettre sur pied des choses abracadabrantes. Pour essayer de les faire s'enfuir, ils vont partir en Irlande du Nord, et une fois qu'ils sont en Irlande du Nord, et ben, ils peuvent rejoindre l'Angleterre ou les États-Unis. Juste pour vous donner une petite idée, entre avril 43, donc là on est plus vers la fin de la guerre, et mars 44, on a 21 000 appareils qui sont repérés dans le ciel irlandais, et 99,65% de ces avions appartiennent soit aux forces britanniques, soit aux forces américaines. Donc ça vous donne un peu l'idée du nombre. Les Allemands ne sont vraiment au courant pratiquement de rien et ne survolent pas, pour le coup, l'air. Alors, le rôle toujours de... Alors là, je vous ai mis normalement... Voilà. Pour régler le problème du surnombre d'avions qui arrivent, alors on ne voit pas très clair, mais au sol, en fait, on va essayer de mettre des aides à la navigation. Donc on disait tout à l'heure, les 82 LOPS vont construire, alors au départ c'est fait à l'irlandaise, hein, c'est-à-dire avec les moyens du bord, avec des cailloux, vous voyez les petits signes notés R, puisque les pilotes américains et britanniques sauront en voyant ça, qu'il ne faut surtout pas, dans la mesure du possible, ne surtout pas se poser ici, puisque c'est l'Irlande neutre, et que parfois en faisant 10 km de plus, en avion c'est vite fait, ou 20 km, ils arriveront en Ulster, et donc en Irlande du Nord, et donc en Royaume-Uni. Donc ça, c'est une aide à la navigation qui est quand même assez importante. Le problème de cette aide-là, c'est que les Allemands la voient s'ils passent à côté. Donc l'Allemagne, bon, je ne vais pas tant me m'étendre là-dessus, mais l'Allemagne va commencer à faire des remontrances en disant « Oui, mais bon, on se rend compte quand même que les Alliés vous les aider, donc nous, on va... » Alors bon, ils mettent quelques ultimatums, et puis on essaye un peu de noyer le poisson, quoi. Donc voilà. Ça, c'est après-guerre, donc ça viendra après. J'aimerais terminer la Deuxième Guerre mondiale sur... Enfin, pas tout à fait... mais du moins sur le conflit, sur l'opération Overlord, c'est-à-dire l'opération du débarquement en Normandie. Alors vous avez l'opération Overlord qui est l'opération des troupes, et puis l'opération Neptune qui est l'opération maritime. Alors en fait, comme on en a parlé un petit peu l'autre jour, les officiers alliés du commandement veulent à tout prix arriver le 6 juin 1944, mais que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, les conditions météorologiques, c'est-à-dire les spécialistes de la météo, disent que les conditions ne vont pas être optimales et que du coup, il vaudrait mieux décaler de 24 heures. Donc, les Allemands pensent la même chose, puisque normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer. Toutefois, il y a le phare de Black Sud qui est à l'extrémité du comté de Mayo, c'est-à-dire dans le nord, du côté de l'océan Atlantique, prétend, contrairement aux autres, donc c'est le seul à le prétendre, que l'opération peut être maintenue et que le ciel s'éclaircira d'abord en Irlande et avec des vents modérés, normalement, quand ils arriveront le matin sur les plages de Normandie, elles devraient être dégagées. Ce qui va donc permettre aux alliés, donc qui vont faire confiance pour une fois à l'Irlande, ce qui va permettre aux alliés de garder la date du 6 juin et surtout de prendre complètement au dépourvu les troupes allemandes au seuil, puisque eux étaient persuadés aussi qu'en niveau, en raison des conditions météorologiques, le débarquement ne serait pas possible. Donc ça, c'est quand même un rôle clé de l'Irlande dans le conflit. Alors je voudrais juste revenir, puisqu'on est quand même sur la liaison entre Dublin et Londres, il y a une liaison dont je vous ai parlé dans l'introduction qui s'appelle le Dublin-London Link, si on veut être précis, c'est-à-dire le lien entre Dublin et Londres. Alors c'est pas Dublin et Londres au niveau du gouvernement, c'est simplement Dublin et Londres au niveau des services de renseignement, c'est-à-dire le MI5 pour Londres et le G2 pour l'Irlande. Donc le G2 correspond aux services de renseignement irlandais, qui sont bien moins célèbres que le MI5, mais bon. Donc le MI5, ils ont l'intention, ils disent que ce serait quand même bien si on pouvait s'engager dans une certaine collaboration, donc non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi des services de renseignement. Et donc ils créent cette coopération, en fait, interagence, en 1938. Alors les débuts sont un petit peu difficiles à mettre en place, mais quoi qu'il en soit, le 31 août 1938, les deux départements de renseignement s'accordent sur un échange d'informations et de renseignements, notamment au sujet de la défense du pays, des activités allemandes sur le sol irlandais, et des activités allemandes, donc la défense et les activités allemandes. Mais je vous ai dit, les débuts sont un petit peu difficiles, le gouvernement britannique est quand même très méfiant, surtout avec Churchill, et ce qui va se passer, c'est que Churchill est tellement méfiant qu'il va un peu court-circuiter cette coopération en envoyant à l'insu de l'Irlande, des espions, notamment à travers le NID, c'est-à-dire le service d'espionnage de la marine, pour continuer en fait à espionner les services irlandais. Alors je vais faire vite parce que là on rentre dans des histoires qui sont très compliquées, mais quoi qu'il en soit, ces agents en fait, notamment du service de la marine, sont assez peu doués dans leur manière à la fois de se déguiser, de parler, etc. et se font très très vite repérer, notamment par leur accent britannique en Irlande. Donc ils sont repérés, en fait le pire c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ce qui fait que l'Irlande va garder en fait les infos et elle va prétendre ne pas avoir infiltré en disant ouais, tiens, bon, il y a des espions britanniques, on n'était pas au courant, alors qu'en fait elle les surveillait. Et en faisant comme ça, elle obtient beaucoup plus d'informations en continuant à surveiller les espions anglais qu'en disant aux Anglais « Oui, ça va pas, on arrête tout, on a vu vos espions. » Donc le jeu commence à devenir un petit peu complexe. Mais bon. En 1941, je vous ai dit donc, que les États-Unis commencent à arriver parce qu'ils rentrent en guerre le 7 décembre 1941. Et là, ça change du tout au tout. C'est-à-dire qu'ils arrivent en Irlande du Nord. L'océan Atlantique devient beaucoup plus sûr parce que les Américains sont là, donc l'Angleterre a quand même prend moins de risques dans la guerre. Donc l'Angleterre, ou plutôt le Royaume-Uni, perd un petit peu de. Pour elle, l'Irlande du Sud représente un danger qui est quand même moins dense par rapport au début de la guerre, étant donné que les Américains sont là. Mais ce qu'elle craint, c'est que les Américains, et c'est un petit peu ce qui se passe, les Américains vont arriver en Irlande, ils vont dire bon, alors maintenant c'est nous qui prenons la direction de ce qui va se passer. Donc elle craint plusieurs choses de la part des Américains. Tout d'abord que les Américains cherchent à récolter des renseignements par leurs propres moyens. Et en fait c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les Américains vont négocier directement avec les Irlandais sans passer par les Britanniques. Donc ça les Britanniques ils vont l'avoir un peu en travers parce que bon ils ont quand même vécu un début de guerre difficile. Et c'est quand même eux qui devaient gérer la partie européenne. Et quand les Américains arrivent du coup ça, forcément ça change tout. Mais les Américains vont être importants pour l'Irlande. On a dit la dernière fois qu'il y avait beaucoup d'Irlandais qui habitaient déjà aux États-Unis, donc ils ont un certain. Ils font quand même plus confiance aux Irlandais qu'aux Britanniques. Et ils vont jouer en leur faveur, notamment quand les Britanniques ont commencé à dire oui, alors les Irlandais, il y a un gros risque avec l'Irlande, c'est qu'à Dublin, vous avez toutes les délégations allemandes, japonaises, donc toutes les délégations nazies et des pays ennemis, ce qui fait qu'il y a des problèmes de fuite. Il risque d'y avoir des fuites, notamment sur les grosses opérations comme l'opération du débarquement. Et donc l'OSS, qui est l'ancien de la CIA, puisque la CIA a été créée plus tard, va essayer d'apaiser un petit peu Londres en disant oui, mais si on regarde ce que les Irlandais nous ont apporté pendant la Seconde Guerre mondiale, le Golden Eagle Corridor, etc., etc., on peut quand même leur faire confiance. Et du coup, ça va changer complètement la relation entre Dublin et Londres, notamment au travers de l'aide des Américains, qui vont permettre aux Britanniques de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ça. Alors, cette fois pour terminer sur la guerre, je voudrais juste aussi vous parler de Richard Hayes, qui est le chef du service de déchiffrement et de décryptage du G2, c'est-à-dire du service de renseignement irlandais. Et lui aussi, il a joué un rôle prépondérant dans la Seconde Guerre mondiale. La première chose, c'est qu'il a réussi à déchiffrer le code de Goertz. Donc Goertz était un des Allemands qui avait été amené par sous-marin. Les Anglais, malgré leur grande école, ils avaient l'école du chiffre et du code à Londres, etc., qui était vraiment concentrée sur le déchiffrement, n'avaient pas réussi à percer le code. Et lui, il a réussi à le percer. Et il a donné toutes ces informations à Londres et aux Américains. Donc il a quand même permis un grand pas en avant. Et puis, encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu l'aide de déchiffrement aussi, entre les deux. Et puis, une dernière aide, vraiment tout à la fin de la guerre, le 6 mars 1945, on a eu une période de bombardement intense sur les sous-marins allemands de la part des Britanniques et des Américains. Et pendant ce temps, les Irlandais en fait capturent un sous-marin et notamment des documents dans ce sous-marin qui détaillent le fonctionnement du schnorkel. Et ça, pour l'instant, c'était des sous-marins qui étaient très difficiles à retrouver en mer étant donné qu'ils pouvaient rester sous l'eau très longtemps. Et dès qu'ils ont ces documents, ils les transmettent encore une fois aux Américains et aux Britanniques, ce qui leur permet d'augmenter la coopération et de commencer un petit peu à préparer, et c'est ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire l'après-guerre. Alors, l'après-guerre, pour vous donner des chiffres un petit peu, c'est assez gros ou... Je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas zoomer. Donc, dans les années 40, moins d'1% des exportations irlandaises partent vers les États-Unis. On a une chute de la livre sterling et le déficit de l'Irlande, puisque l'Irlande paye et sa monnaie, c'est la livre sterling, le déficit de l'Irlande augmente considérablement. On parlait la dernière fois de l'émigration, donc je vous ai mis quelques chiffres ici. L'émigration entre 1950 et 1961 continue d'augmenter, comme juste après la Grande Famine. Et pour vous donner une idée, donc 46-51, on a 1000 Irlandais hommes et 1365 femmes qui émigrent, alors qu'entre 51 et 61, c'est-à-dire 10 ans plus tard, on passe à 412 000. Donc ça représente quand même une augmentation assez importante. Pourquoi ? Parce que vous avez des emplois dans les industries qui chutent. Donc l'Irlande perd à peu près, dans les années 40 et à la fin de la guerre, 14% de sa force industrielle. Donc l'Irlande, on ne peut pas dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la situation soit très glorieuse. Alors en 48 quand même, le Royaume-Uni reconnaît la nationalité irlandaise, ce qui est déjà un début, et vous voyez tout de suite arriver l'année 1949, où là, 1949, on a l'indépendance totale de l'Irlande qui devient une république à part entière. Entre 48 et 49, 80% de la dépense publique irlandaise cible la réhabilitation ou la construction de nouvelles maisons. Et en 49, on a toujours une très forte... Alors l'Irlande a toujours la plus forte mortalité infantile et maternelle en Europe. Toujours. Elle va la garder d'ailleurs un certain temps. Son fléau majeur reste, comme avant, comme depuis un certain temps aussi, depuis la Grande Famine, une pauvreté endémique du pays. Même si on a une taille des familles, vous savez que les familles irlandaises sont assez nombreuses en raison de la religion catholique, mais qui va donc en 1911, on a une famille en moyenne qui a 8 enfants, et en 46, on n'en a plus que 5. Et malgré tout, 5 enfants en 1946, ça représente le double de ce qu'ont les familles anglaises. Donc ça montre quand même qu'au niveau des familles, au niveau surtout intellectuel et au niveau des idées, on n'évolue pas beaucoup par rapport à la religion. Et puis pour terminer sur l'éducation aussi est très très lente à se développer. 48-49, on a 4560 étudiants dans l'enseignement supérieur. Et en 1950, on en compte 8653. Vous allez me dire, ça fait quand même le double. Mais par rapport aux pays européens, c'est assez peu. Et ces étudiants se concentrent quand même uniquement dans les universités de Dublin et de Cork. Donc en dehors de Dublin et Cork, il n'y a vraiment pas grand-chose en Irlande. Et ça a quelque chose, une situation qui va perdurer un certain temps. Alors, en 1950, le gouvernement irlandais se dit qu'il faut qu'on essaie de consolider le nord et le sud de l'Irlande. Donc pour cela, ils vont mettre en place un certain nombre de grands travaux, comme par exemple des barrages, le barrage de la rivière Erne, comme la commission des industries de la pêche, comme la gestion de la maladie de la vache folle, et comme aussi des constructions de chemins de fer du Grand Nord, entre le Nord et le Sud, pour essayer un petit peu de fonder et de rapprocher ce Nord et ce Sud. Ils vont quand même y arriver, puisque dans les années 50-60, vous avez le plan Marshall américain, dont l'Irlande a bénéficié, comme le reste de l'Europe. Et étant donné que l'Irlande a quand même fait des efforts au niveau de la collaboration avec les Alliés, elle va pouvoir profiter voilà, de ça, et aussi faire améliorer les relations globales entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et les États-Unis. Donc en 50-60, Londres va même accepter de réduire les quotas imposés sur le bétail irlandais, ce qui va permettre à l'Irlande d'exporter son bétail vers le Royaume-Uni, mais aussi vers les États-Unis où elle exporte déjà de la viande congelée dès le début des années 50. Ça je trouvais ça assez intéressant. Et donc, vous voyez que le pays commence un peu à sortir un petit peu du marasme. Et en 1958, la compagnie nationale que vous connaissez peut-être, Aer Lingus, est créée et ouvre la première route transatlantique depuis Dublin. Jusque-là, Dublin n'avait aucun échange à part avec la Grande-Bretagne internationale. Donc ça, c'est les années 50-60. Les années 60-70 sont plutôt considérées, donc vous voyez, on continue l'évolution, comme les belles années en fait. On a un certain nombre de réformes qui sont mises en place, en faveur notamment des services de santé, notamment dans l'amélioration des structures, les hôpitaux et l'administration. On continue les créations, et en 1961, vous avez la chaîne de télévision qui est toujours d'ailleurs dirigée par le gouvernement, c'est RTE. RT1, RT2, RT3, donc qui correspond à TF1 chez nous, quoi, ou France 2, France 3. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, puisqu'elle ne dépend pas du coup des Anglais, mais elle est purement irlandaise. Et d'ailleurs, vous avez aussi une version en gaélique irlandaise de cette chaîne. Donc, les exportations se développent, et on arrive en 1965 avec un accord sur un commerce libre entre l'Angleterre et l'Irlande, qui est finalisé en 1970 et qui favorise en fait les exportations irlandaises. Pour la première fois, les taux d'émigration sont en nette baisse. C'est la première fois que les Irlandais arrêtent d'émigrer. Alors ils ne reviennent pas tout de suite, mais ils arrêtent d'émigrer. Et on reprend les chiffres de tout à l'heure, 1951-1961, 14 personnes sur 1000 émigrent. Alors qu'en 61-71, au lieu des 14, on passe à 5. Donc on a quand même une chute impressionnante. Et à partir des années 70, c'est là qu'on verra même certaines personnes rentrer complètement sur l'Irlande. Alors, les années 70, ça m'amène au Bloody Sunday. Donc l'autre jour, je vous parlais du film. Je vous ai mis un petit peu la pochette ici. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire qui a été créé en 2002. Et qui est très très intéressant, qui permet de bien cerner ceci. Donc on disait, le gouvernement Dublin essaye de diminuer les tensions entre le Nord et le Sud, et on signe des accords entre les deux parties pour essayer de développer, donc en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les années 70, le commerce, les échanges et aussi le tourisme, ce qui est nouveau, puisqu'on est donc au début des années 70. Alors il y a un mémo de l'armée, malgré tout, le 25 novembre 1969, qui souligne quand même une situation préoccupante, notamment dans les 6 comtés du Nord, et qui déclare même que les 6 comtés du Nord seraient au bord du chaos. Alors, il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent, notamment concernant le trafic d'armes, donc un trafic d'armes qui passerait du Sud au Nord. Et Londres, comme elle possède l'Irlande du Nord, va essayer d'influencer Dublin, pour pousser Dublin à essayer de trouver une résolution diplomatique de la situation. Alors que Dublin, face à la difficulté du processus, va plutôt envisager l'emploi de la force. Donc là, vous voyez tout de suite ce qui se dessine. L'amélioration des relations va forcément tomber à l'eau. Et malgré ce que Londres a dit à Dublin, bon, il faut que tu trouves une solution diplomatique, c'est bien. Mais elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'armée. Donc c'est pas très logique au niveau de... Donc elle envoie l'armée en Irlande du Nord, dès l'été 1969, pour essayer de régler le problème, et notamment dans les deux villes qui posent problème, c'est-à-dire Derry, ou Londonderry, tout dépend si vous êtes britannique ou irlandais, ou Belfast. Donc les tensions, forcément, avec l'armée, ne font qu'augmenter. Les RICS deviennent monnaie courante, poussée par les agitateurs des mouvements de droit civil. Et la répression britannique s'exerce principalement par le biais d'internements de masse des dirigeants et des fauteurs de troubles. Pour donner une idée, le 9 août 1971, on a 340 hommes qui sont considérés comme des fauteurs de troubles, qui sont arrêtés par les troupes britanniques après avoir saccagé des maisons qui appartenaient à des catholiques. Une fois encore, vous voyez qu'on retombe un peu dans le piège dans lequel l'Irlande, l'Angleterre était déjà tombée avec Dublin avant, c'est-à-dire internement de masse, arrestations injustifiées, torture. Donc, les moyens mis en œuvre par les troupes britanniques, quelque part, défraient la chronique encore une fois, notamment en ce qui concerne les infractions aux droits de l'homme. Donc c'est pour ça que nous, en France, on en a aussi entendu parler. On a quand même, entre 1972 et 1978, 1612 cas de mauvais traitements et de persécutions qui sont signalés à Amnesty International. Donc cette organisation souligne un manque de contrôle quant aux méthodes d'interrogatoire employées, alors qu'en fait on a en moyenne entre 75 et 80% des emprisonnements qui sont uniquement basés sur les aveux. Et en sachant que les aveux ont été souvent extorqués de force aux personnes concernées. Les évictions sont le deuxième problème. Donc ça, c'est le premier problème, la gestion des fauteurs de troubles. Le deuxième problème, c'est les évictions. Pourquoi ? Pour, encore une fois, vous me basez sur des chiffres, en 1974, par exemple, on a 8180 familles qui sont forcées d'évacuer leur maison entre 1969 et 1973 dans le Grand Belfast. Et 80% de ces familles, comme par hasard, sont des catholiques. Donc simplement, on les évince, on les fait sortir des villes pour éviter qu'elles posent problème dans le cœur des villes. En 1973, toujours, donc dans la partie nord de la ville de Belfast, les loyalistes, font exploser 23 des 30 bars possédés par des catholiques. Je n'ai pas fait de total, mais ça doit représenter quand même un bon pourcentage. Ce qui fait que, face à ces persécutions, l'IRA, qui est ouvertement catholique et anticommuniste, réagit aussi par la violence, par des assassinats et des attaques à la dynamite. Donc hop, on rentre dans un cercle vicieux, ce qui fait que le 30 janvier, donc Bloody Sunday, on y arrive, le 30 janvier 1972, lors d'une marche pacifique de civils désarmés, dans un quartier du Boxside à Derry, cette marche, elle est en faveur des droits civils, et essaye de remettre en cause un petit peu les manières de l'internement de masse des classes ouvrières, l'armée britannique ouvre le feu sur la foule et tue 13 civils. Deux jours plus tard, c'est là la difficulté, deux jours plus tard, le premier ministre britannique, Edward Heath, soutient, en s'appuyant sur le rapport Widgery, donc de l'armée, que les coups de feu ont été tirés sur les soldats britanniques qui n'ont fait en fait que riposter à des tirs qui avaient été tirés par les Irlandais, ce qui est faux. Et ils sont capables quand même d'affirmer ceci, alors que 700 habitants de Derry ont témoigné comme quoi les coups de feu avaient été tirés depuis les murs de la ville et que ces derniers avaient atteint la foule directement, donc que en fait l'armée britannique ne répondait pas, c'est elle qui a ouvert le feu en premier. Donc il y avait 700 habitants qui disaient ça et le gouvernement britannique a soutenu l'inverse. Donc, bien entendu, l'événement gonfle les rangs d'IRA, qui récupère un certain nombre de membres par rapport à l'injustice, etc. Et son impact est aussi retentissant dans l'Irlande du Sud, donc en mer, puisqu'il y a une réaction très violente de la part d'IRA du Sud qui fait exploser l'ambassade britannique à Dublin, directement. Alors, après, je ne sais pas si vous êtes allé visiter Derry, je vous ai mis quelques petites images des peintures murales de Derry, donc dans ce quartier du Boxside, où vous avez, donc ça c'est des maisons qui sont, alors vous avez bien entendu les chars britanniques, la manifestation avec les haut-parleurs, alors je continue, hein, c'est toujours pour ça, donc les Civil Rights Association, où vous avez les blessés qui affluent, avec la foule derrière, les 13 personnes, donc j'en ai peut-être un peu plus, je ne sais plus, qui ont été tuées, et puis là vous avez le combat qui s'est suivi, c'est-à-dire l'Irlande ici au centre, avec un poignard ou une espèce de grande lame plantée dedans. Un Irlandais avec un cocktail Molotov qu'il boit avec ce qu'il a dans les mains. Le masque à gaz et derrière les troupes britanniques qui sont plongées dans la fumée. Donc ça, c'est vraiment les maisons que vous pouvez trouver toujours aujourd'hui d'actualité. Alors c'est là que je vous disais l'autre jour, on en avait parlé un petit peu, qu'au niveau de l'Espagne, notamment l'ETA, commence à s'inspirer de ça et fait aussi en Espagne ce genre de peinture murale. Alors je crois que c'est tout. Donc je vous parlais des représailles. Donc en juillet 72, l'IRA, qui forcément se déchaîne, fait sauter 26 bombes à Belfast, en représailles du Bloody Sunday, et tue 11 personnes et en blesse 130. Donc le gouvernement britannique doit agir, forcément, et il va même imaginer un plan de partition de l'Irlande. Il dit finalement peut-être qu'on coupe autrement, qu'on recoupe. Alors, vous voyez un petit peu là, on rentre dans des choses encore plus compliquées. Quitte à déplacer des milliers de catholiques et des protestants dans des enclaves de sécurité. Les plans arrivent un petit peu comme ça. Et quoi qu'il en soit, la situation se détériore. Donc Londres décide d'annuler le Parlement, parce que l'Irlande du Nord avait un Parlement, le Parlement de Stormont. Donc il n'y a plus d'instance gouvernementale en Irlande du Nord. Et il y a aussi des sanctions. Elle prévoit des sanctions pour l'Irlande du Nord, mais aussi pour l'Irlande du Sud, qui n'a pas su agir. Donc elle se dit finalement... vous n'avez pas coopéré, vous ne nous avez pas aidé, donc finalement on va aussi essayer de vous bloquer, et notamment par le non-renouvellement des permis de travail, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui travaillent en Angleterre, donc on leur interdit les renouvellements, et aussi des cartes d'identité des ressortissants irlandais à Londres. Donc quoi qu'il en soit, Dublin se dit, il faut que je mette la priorité, il faut que j'essaye de contenir et contrôler le pouvoir des républicains en Irlande du Sud, afin que ces derniers ne renversent pas le gouvernement en place, quitte à adopter une position en faveur du maintien de la partition avec l'Irlande du Nord. Donc on a un sondage qui est lancé en Irlande du Sud pour savoir si oui ou non on souhaiterait rattacher cette Irlande du Nord avec le Sud. Donc le résultat est le suivant. En 1977, on a 63% des personnes qui sont interrogées dans le Sud qui sont en faveur d'une Irlande unie, c'est-à-dire de récupérer l'Ulster. Et seuls 35% souhaitent l'unité, quels que soient les sacrifices. Parce qu'ils ont quand même pas mal, on a vu la guerre civile, on a vu la guerre anglo-irlandaise, etc. Donc ils se disent, nous on veut bien récupérer le Nord, mais si c'est pour repartir sur une guerre civile, il y aura trop de blessés, donc ça sera trop difficile. Quoi qu'il en soit, avec l'abolition du Parlement de Stormont, tout tombe à l'eau, puisque l'Irlande du Nord n'a plus du tout de Parlement, n'a plus du tout de pouvoir décisif, et c'est Londres qui décide tout, et qui bloque complètement cette volonté de réunifier en fait l'Irlande du Sud avec l'Irlande du Nord. Malgré tout, on a en 1973 des accords de Sunningdale qui sont signés, et qui représente une espèce de première instauration d'un système basé sur une espèce de partage politique entre les catholiques et les Irlandais en Irlande du Nord. Donc le conflit continue, et en 1978, l'IRA déclare se lancer dans une guerre de longue durée contre le Royaume-Uni, et passe mettre dans les attaques terroristes à la dynamite. Et là on a un conflit qui s'enlise jusqu'aux accords du Vendredi Saint, en 1998, qui sont signés donc avec... l'Angleterre. Donc ces accords vont apporter quoi? Ils vont apporter une meilleure répartition du pouvoir exécutif en Irlande du Nord. Ils renforcent le lien entre le Nord et le Sud en créant de nouvelles institutions. Et l'accord prévoit aussi l'élection d'une assemblée locale. Donc on revient un petit peu vers un parlement, vers une autodétermination de l'Irlande du Nord. Une création de conseil des ministres dirigé par un premier ministre d'Irlande du Nord. Et surtout, quelque chose qui va être important, le désarmement des groupes paramilitaires. C'est-à-dire que l'IRA, normalement, en 1998, s'engage à se désarmer en Irlande du Nord. Alors, il y a d'autres choses qui sont créées là-dessus, mais bon, voilà. Et on a aussi la reconnaissance pour chaque personne qui est née en Irlande du Nord du droit. Donc, en fait, les Irlandais du Nord ont le droit de choisir leur nationalité. Soit ils veulent dépendre de l'Irlande, dans ce cas-là, ils auront la nationalité irlandaise, soit ils veulent dépendre du Royaume-Uni, donc là ils auront la nationalité britannique. C'est eux qui choisissent. Donc ça déjà c'est une ouverture. Donc ces accords sont quand même assez importants. Ils jouent un rôle clé notamment dans l'instauration de la paix en Irlande du Nord. Alors les années 1970-2000, En 72, l'Irlande rejoint la communauté européenne, même si elle est touchée de plein fouet par la crise pétrolière de 73. Et le problème dans les années 70-80, c'est que l'Irlande dépense beaucoup plus que ce qu'elle n'a. Donc elle s'endette énormément et très rapidement. Elle prend un certain nombre de décisions comme la diminution des impôts, l'augmentation du nombre de fonctionnaires qui passe de 38 200 à 60 500 en même pas 10 ans. Elle augmente aussi les aides sociales, donc par rapport au chômage et aux aides qu'elle offre aux familles, ce qui fait que le gouvernement est complètement endetté. Donc face à ça, on a aussi une augmentation en parallèle du taux de chômage qui passe de 7,8% à 18,2%. Entre 1979 et 1985, c'est-à-dire en 6 ans, il y a une évolution très très importante de ça. Donc on a un total de 26% de la population qui vit au niveau du seuil de pauvreté et dans un pays qui manque, comme on disait tout à l'heure, d'infrastructures, de moyens de communication, etc. etc. Donc les années 70-80 sont vraiment pas très, très glorieuses. Mais finalement, le XXe siècle, l'Irlande la termine, malgré sa pauvreté et toutes les guerres qui l'ont déchirée, comme elle ne l'aurait jamais imaginé. Au milieu des années 90, tout change. Pourquoi ? Premièrement, l'Europe aide financièrement l'Irlande, ce qui permet à l'Irlande de se développer, de développer notamment ses moyens de transport et son agriculture. Et à la fin des années 90, on a une nouvelle génération irlandaise, en fait, de classe moyenne, qui n'a jamais rien connu d'autre que la prospérité, à part par le biais des parents et des grands-parents, mais bon. Et pour vous donner une idée, à la fin des années 1996, 300 entreprises d'ordinateurs et d'électronique, des géants aussi, géants pharmaceutiques américains, s'installent en Irlande. Et d'un coup, ils créent 10 000 emplois pour des Irlandais, ce qui est quand même impressionnant par rapport à la taille, ce qui fait que le pays se transforme en tigre celtique. L'économie devient la plus prospère du monde entier à cette période-là. Entre 1994 et 2000, on a une moyenne de 1000 emplois qui sont créés hebdomadairement, ce qui propulse forcément les taux des nouveaux emplois qui passent à 47%. C'est ça qui permet de donner le nom de tigre sceptique à l'Irlande. C'est l'augmentation aussi rapide. Pourquoi ? Parce qu'elle fait référence aux économies d'Asie du Sud-Est qui ont grandi aussi vite. Donc l'Irlande agricole commence à disparaître un petit peu depuis les années 60 et les paysans qui représentaient 37% de la force ouvrière n'en représentent en 1999 plus que 8%. Donc vous voyez le changement brutal de la transformation et de l'évolution du pays. Et pourtant, l'Irlande garde quand même un certain nombre de problèmes malgré cette richesse économique. Un sondage qui est paru en 2002 montre que l'Irlande conserve le plus haut taux de pauvreté du monde occidental, que c'est dans ce pays qu'il y a la différence est la plus inégale entre les riches et les pauvres, les riches étant 11 fois plus riches que les pauvres, et qu'il reste quand même plus de 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et pire, à mon avis, 23% de la population en 2002 ne sait ni lire ni écrire. Et pourtant, l'Irlande arrive au quatrième rang mondial par le PIB, derrière le Luxembourg, les États-Unis, la Norvège. Donc il y a quelque chose dans le pays qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas très bien. Alors, l'Irlande a un autre problème. Tac, 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 donc ça c'est les chiffres que je viens de vous donner, donc voilà. L'Irlande, enfin, on a plusieurs des problèmes. On a parlé de la pauvreté tout à l'heure, j'en reviendrai, bon, on en a déjà parlé, donc c'est bon. Par contre, je vais passer au problème de l'alcool. Le problème de l'alcoolisme. Forcément, entre 89 et 99, la consommation augmente de 41%, alors qu'en Europe, elle fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en Europe, entre 1989 et 1999, elle décline. En Irlande, elle augmente de 41%. Pour donner une moyenne, en Irlande du Sud, vous avez un pub pour 290 personnes entre 1996 et 2000. Les infractions à l'ordre public dues à l'alcool augmentent de 97%. Sur cette période-là, c'est-à-dire en 10 ans. Et en 1999, vous avez plus d'un homme sur deux et deux tiers des femmes qui appartiennent à la classe d'âge 18-24 ans qui ont un comportement à risque avec l'alcool. Au niveau du poids, combien représente le commerce de l'alcool en Irlande ? 5 milliards de livres sterling par an, et ce qui représente 13% des dépenses totales des ménages. Ça vous donne un peu une idée, alors je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais ça vous donne une idée du problème de l'alcool qui est quand même prépondérant, et encore plus qu'en France, étant donné qu'ils boivent en plus beaucoup. Nous en France, on boit on peut boire beaucoup au final, mais on boit l'apéro, on boit pendant en mangeant, etc. Alors qu'eux, ils engloutissent assez rapidement, sans forcément manger, et c'est dans une période beaucoup plus courte. Donc l'ivresse et les problèmes liés à l'alcool sont plus importants. L'autre problème qui surgit, contraception et religion, c'est-à-dire le poids de la religion catholique qui interdit toujours donc les divorces, l'utilisation des moyens de contraception, pardon, et les avortements. Donc, toujours si on part sur des chiffres, en 1921, vous avez 1600 naissances hors mariage. En 1998, on en a 15 000. Les jeunes mères, dans les années 2000, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont avorter au Royaume-Uni. Ce qui fait que vous avez un nombre très très important de mères qui... Alors, soit elles abandonnent carrément l'enfant, ça c'est possible, ou les poussent même à l'infanticide, et ça dans les journaux on en trouve quand même beaucoup. Et la troisième possibilité, c'est de partir en Angleterre et d'aller avorter en Angleterre. Donc ça, c'est toujours... c'est quand même toujours des problèmes actuels, hein, l'alcoolisme et le poids de la religion quand même freinent quand même énormément, même des jeunes générations font quand même attention par rapport à ça. Bref, je vous avais dit qu'on terminerait sur la visite de la reine Elisabeth. Alors je vous passe, vous allez bientôt la voir avec son beau chapeau, etc. J'ai lu dans un article cette semaine que l'Elysée avait été obligée de changer de voiture parce que le chapeau de la reine ne passait pas et que du coup ils ont changé la DS5 pour prendre un truc plus haut parce que son chapeau était trop haut. Donc bon, vous regarderez cette semaine, vous la verrez. Simplement, elle se rend en Irlande le mercredi 18 mai 2011 avec son mari, donc le prince Philippe. Et elles sont invitées par la présidente Mary McAleese, qui est restée très longtemps la présidente de l'Irlande. Et lors de son discours, parce que bon, voilà, elle fait quand même des beaux discours, elle insiste sur la réconciliation instaurée entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Elle reconnaît aussi les différences, et c'est là que c'est important, de traditions et de cultures entre les deux communautés, mais elle met aussi en avant le processus qui a été engendré en Irlande du Nord, notamment depuis les accords du Vendredi Saint, qui ont permis de dénouer un peu le problème en Irlande du Nord. Et elle termine en insistant sur le fait que malgré cette différence de tradition et de culture, le rapprochement des deux pays est certain. D'ailleurs, il se voit, si vous allez en Irlande, on voit quand même une forte influence britannique. Et elle insiste aussi sur les nombreuses familles qui habitent, du coup, depuis l'émigration, de part et d'autre, soit en Irlande, soit en Grande-Bretagne, et qui se rendent, qui partagent aussi des liens communs, qui se rendent de nombreuses visites, et qui permet, alors selon la reine en 2011, d'envisager une avancée des deux pays côte à côte. Voilà. Donc je conclurai sur une note plutôt, positive. On a vu depuis le début tout un fonctionnement un peu complexe entre les deux. Quoi qu'il en soit, et je vous ai mis ça et puis ça va me permettre d'enchaîner avec le titre. Donc là maintenant, c'est depuis le désarmement de l'IRA en 2003 en Irlande du Nord, vous avez quelque chose qui prend un peu le dessus sur les maisons que vous avez vues tout à l'heure où on avait des victimes, on avait la guerre, etc. C'est un peu à travers l'art, essayer de retrouver un peu de paix et de paix et d'ordre entre les deux pays. Alors là, vous avez la représentation d'une colombe, donc qui a été faite, comme vous voyez, dans le quartier de Bogside, donc c'est exactement là où on a eu le Bloody Sunday, les attaques et la lutte. Et on essaie de symboliser des couleurs, la paix, les colombes, etc. Donc ça, c'est une première chose à Derry. Et en Irlande du Nord, du coup, je voudrais vous montrer, si ça marche toujours, un projet qui a été fait en 2014. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des LOPS, donc c'est Lookout Post, c'est ces petites huttes qui ont permis aux gardes-côtes de surveiller les côtes. Et là encore, au niveau de l'art, on a un projet qui a été lancé, alors j'espère, je vais pouvoir le retrouver, je ne sais plus si c'est dans Sideshot, qui en fait, vous allez voir en image, reprend chacune des 82 petites huttes. Et donc l'artiste en fait attend que la nuit tombe, entre la nuit et pas totalement nuit en même temps, puisqu'il projette en fait sur ces petites huttes des images, alors avec une technologie un peu moderne bien sûr, qui selon lui reflète un petit peu ce qu'il ressent sur le moment dans ce lieu-là. C'est souvent des lieux quand même un peu magiques, puisqu'on est toujours en bord de mer et dans des coins très retirés d'Irlande. Donc voilà, je voulais juste boucler ces trois séances là-dessus. J'espère juste que je vais pouvoir retrouver. Alors là, c'est la galerie, mais normalement, il y a un petit film qui dure 1 minute 30, je crois, ou 2 minutes.
Alors, j'ai pas eu le temps de développer la vie des gardes-côtes là-dedans, mais vous imaginez un petit peu, ils étaient deux, ils étaient relevés, il y en avait un qui restait dedans et un qui faisait la ronde à l'extérieur. Notamment l'hiver, on avait énormément, enfin, ils étaient très touchés par les maladies, etc., puisque c'était très 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 humide, puisque toujours au bord de l'eau, sans chauffage, sans électricité, sans rien. Et du coup, c'était un petit peu, au niveau des conditions de vie, c'était un peu spécial. Voilà, je vais peut-être vous en faire encore un ou deux. Et puis, si vous voulez aller sur le site, de toute façon, vous tapez lookoutpost.com et vous pourrez retrouver. Puis du coup, vous aurez peut-être la petite vidéo qui vous permet, c'était sympa parce que je trouvais que la petite vidéo permettait de voir rapidement un maximum de choses. Il y en a qui sont assez fun, je trouve.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la dernière séance. Je suis pas Eddie Mitchell, mais... ou même les séances précédentes, ou même autre chose que vous souhaiteriez connaître sur l'Irlande. Alors si je voudrais juste me reprendre par rapport à mercredi, je vous ai dit que le jeudi, samedi, j'avais un petit mix. C'était le 21 novembre, non pas 1921, mais 1920. J'avais mis deux fois 21, je pense que c'est une faute de frappe, mais... Donc voilà. J'espère vous avoir donné un peu envie d'aller fouiller un peu entre l'Irlande et l'Angleterre, c'est toujours un petit peu complexe, mais en même temps, ils aiment bien quand même. Donc, après, c'est vrai qu'ils ont vécu en période de guerre, c'est toujours difficile de... Voilà, quand c'est un pays qui joue l'indépendance, il est prêt à faire des sacrifices. Et c'est vrai que, comme on l'a vu aussi depuis Henri VIII, ça remontait à loin. Et c'était quand même bien ancré dans les idées. Et je pense que, quelque part, moi je vois mes amis qui sont irlandais, ils ont toujours ça en tête. C'est-à-dire qu'en même temps, les Irlandais de souche font tout pour que ça reste un peu, voilà, les Anglais, ils font pas bien, machin, etc. Donc c'est quand même bien entretenu à la fois par les médias, et aussi les mouvements politiques et tout ça. Donc c'est vrai que les sociétés, même les sociétés actuelles, voilà, ils sont quand même bien influencés par ce genre de propos qui est tenu par le gouvernement irlandais, même si maintenant, voilà, ça va mieux, quoi. Mais... Et puis je pense que tant que le problème de l'Irlande du Nord ne sera pas résolu, il y a quand même, bon, ça se résolvera pas, mais un problème d'incursion sur le sol irlandais, quoi. Donc là, je pense qu'il y a un petit conflit, quoi. Oui.
Oui, l'Iran n'avait pas hésité à s'attaquer à la famille royale, puisque Lord Louis Mountbatten était mort dans son bateau suite à une explosion, on a dit que c'était l'Iran. Et tout à l'heure, dans les photos que vous montriez, m'a semblé reconnaître ce qu'on appelait la façonnaria, c'est-à-dire Bernadette Dembélé.
Peut-être, oui, c'est possible, j'ai pas fait attention, mais c'est possible, ouais, faudrait regarder.
Oui,
ouais.
Ça m'a frappé.
C'est bien possible, oui, oui.
Et il y avait également le pasteur Yann Beslin, qui était l'ultra des ultras. Comment était organisée concrètement, matériellement parlant, la frontière entre les deux ?
Concrètement, matériellement, il y avait des postes militaires. Et donc il fallait passer, moi je l'ai vécu, même moi en tant qu'étrangère, où il fallait montrer les papiers, comme quoi. Alors quand on était français, on passait tout de suite. Et puis j'ai mes copains irlandais qui sont restés derrière un bon bout, parce que voilà, il fallait vraiment traverser la frontière. Et il y avait donc des installations militaires, et il y avait des contrôles assez réguliers entre les deux. Ouais. Donc c'était vraiment, pour le coup, une vraie frontière. Une vraie frontière, oui. Jusque dans les années 90-2000. Bon, maintenant on passe sans aucun problème, mais c'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Et toujours pour raconter une petite anecdote, pour la première fois que je suis en Irlande du Nord, parce que j'ai vécu à Dublin en 1999, donc j'étais en plein dans cette période, mes copains, ils faisaient partie de la moyenne, les classes moyennes, vous savez, qui n'avaient jamais connu la pauvreté, machin, dont mes parents vivaient dans une pauvreté impressionnante. Mais eux, ils étaient dans le délire de l'Irlande. J'ai même eu, parce que je faisais partie de l'université de Dublin, j'ai même eu des géants informatiques, etc., qui venaient dans les universités pour nous débaucher, en fait, en disant, mais arrêtez vos études, venez travailler chez nous, on a de quoi faire, on a de quoi vous payer, etc. Et il y avait un certain nombre d'Irlandais qui partaient, voilà, ils avaient vu leurs parents vivre dans la pauvreté, etc., ils ne se posaient même pas la question. Et à côté de ça, on avait des profs de fac qui nous disaient « Mais restez, s'il vous plaît, restez. » Enfin, voilà. Et donc, c'était vraiment dans cette situation-là, quoi. Et la première fois que je suis allée donc, en Irlande du Nord avec mes amis, on était à Belfast, et dès qu'ils entendaient le moindre bruit suspect, mais vraiment une voiture qui pétarade ou des choses comme ça, ils se jetaient à terre, mais comme ça, comme si une bombe allait sauter, tellement ils avaient la frousse, en fait, et tellement l'insécurité était latente, quoi, j'allais dire, voilà. Le soir, on est allé au pub, dans les pubs, on nous demandait si on avait notre carte catholique ou notre carte protestante. Et il y avait un seul pub dans la ville où on pouvait entrer comme ça. Évidemment, c'est tous retourné dans le même. Mais voilà, donc c'est encore assez récent. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui reste dans les mémoires. Et mes amis, je veux dire, bon, ils ont quoi, une trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'après, ils vont aussi faire rebondir ça sur les générations futures. Donc c'est un problème quand même assez ancré, je pense, l'opposition entre les deux. Mais voilà. D'autres choses ?
Est-ce non qu'on pourrait penser que, comme il y a l'Écosse, où il va y avoir un référendum dont on ignore la réponse aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quelque chose
faire ? Alors, il y en a déjà eu des référendums. Alors là, dans les plus récents, l'Irlande du Sud ne veut plus forcément récupérer l'Irlande du Nord. Notamment depuis les tigres celtiques, puisque l'Irlande du Nord est restée très industrielle et ne s'est pas développée aussi vite que l'Irlande du Sud, donc là on est un peu à contrario. Et en Irlande du Nord, ils souhaitent quand même rester britanniques, parce qu'il y a quand même beaucoup de catholiques qui sont partis, donc ceux qui restent, ils sont quand même protestants et du coup plus loyalistes que les anciens, enfin que ceux d'avant. Et du coup, on est un peu. Je pense même pas que. Enfin, même si c'est au référendum, je pense pas que ça passe. Parce que maintenant, les choses sont ancrées et c'est trop tard, quoi. C'est fait, et le fonctionnement est plus le même et tout ça, quoi. Donc, on parlait de l'Écosse l'autre jour, mais je pense que le problème est le même. En Écosse, aujourd'hui, quand vous y allez, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, on m'a traité de britannique parce que j'avais osé mettre le drapeau britannique et les Britanniques, les Anglais, c'est l'Anglais, nous, on est les Écossais, donc c'est pas le même drapeau. Et pourtant, on est dans. Enfin, c'est le même fonctionnement. Et pourtant, on fait partie du Royaume-Uni. Donc, c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est quand même particulier, quoi. On est ensemble. Mais on garde nos particularités régionales. En France aussi, on l'a. Hein, on a la Bretagne, on a la Corse, on a un certain nombre. Mais là, c'est vraiment, ça se fait vraiment sentir. Mais je pense que le référendum, pourquoi pas. Hein, mais je suis pas sûre que ça passe. Mais voilà. D'autres questions, interrogations ? Oui.
Je voudrais savoir si le Parlement a recommencé à fonctionner normalement. Il y a quelques années, Tony Blair s'était fâché. Il avait menacé de ne plus payer les députés. Je voulais savoir si c'est un petit peu rentré dans la normale, parce qu'en fait, il siégeait pas.
Oui. Ouais. Alors, normalement, c'est rentré dans la normale, mais après, oui. Mais c'est vrai que c'est. Alors, le problème de Blair, c'est que s'il enlevait, voilà, il allait avoir après l'IRA, enfin, pas forcément l'IRA, mais l'Irlande qui allait monter un petit peu au créneau, quoi. Donc, il a menacé, c'est vrai, de le faire. Et là, maintenant, ça refonctionne normalement, mais c'est vrai qu'il. C'est tout petit, quoi, donc ils n'ont peut-être pas le même rendement. Alors, ils sont aussi représentés à Westminster, comme en Écosse, ils ont aussi un représentant qui est envoyé à Westminster. Du coup, ça fait un petit peu double emploi, quoi. Mais c'est vrai que normalement, le Parlement local était censé gérer les problèmes locaux.
Leur domaine de compétence, c'est quoi dans les grandes villes ?
Alors là, vous posez une colle. Parce que l'Irlande du Nord, c'est pas.
C'est uniquement certaines affaires régionales.
Normalement, c'est certaines affaires régionales. Alors, normalement, si je me souviens bien, ça doit être comme en Écosse, il doit y avoir une partie d'éducation aussi, logiquement. Au niveau de la justice, donc gestion des petits criminels, si je me souviens bien aussi. Et après, plutôt les affaires locales. Mais je pourrais pas vous détailler, je suis pas spécialiste d'Irlande du Nord, en fait. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a des questions, même régionales, qui restent l'apanage du pouvoir central.
Oui, tout à fait. Et comme vous dites, en fonction des tensions plus ou moins importantes, soit Londres regagne un petit peu, soit elle relaisse, soit elle redonne, soit elle faisait toujours un petit peu, comme elle faisait avec Dublin avant, quoi, et comme elle a fait en Écosse aussi. C'est-à-dire qu'elle octroie un petit peu de liberté, mais quand elle voit que ça commence à partir un peu en vrille pour une raison ou pour une autre, dans ce cas-là, elle peut décider complètement, comme elle l'avait fait en 1970, de couper complètement le Parlement. Ça, c'est sûr. C'est quand même eux qui décident au niveau militaire, etc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ils n'ont pas eu le choix. Hein. Ils ont été enrôlés directement avec l'armée britannique. D'autres questions ? C'est tout bon? On clôt? Bonne soirée.
Merci.
Et puis, à bientôt.